richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et tout de suite, on retrouve donc évidemment le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh bien, on va reparler, devine quoi, d'inflation.
Ah.
Bah ouais, l'inflation n'est pas réglée, hein, d'accord ? On a toujours de l'inflation, donc ça pèse sur les porte-monnaies, donc ça justifie qu'on s'intéresse encore à la question. Est-ce que tu te rappelles, Mathieu, que j'avais évoqué une notion, on avait appelé ça les effets de second tour, quand l'inflation commence à s'auto-entretenir ? Elle se nourrit d'elle-même et elle perdure parce que des mécanismes d'auto-entretien existent. Tu te souviens pas de ça ?
Non, ça me dit rien.
C'est pas grave.
L'inflation cause elle-même de l'inflation ?
Ouais, l'inflation, elle est provoquée par des causes externes que je vais citer après, mais il y a un moment où l'inflation risque de s'entretenir elle-même. Et c'est là qu'elle devient un problème, en fait, l'inflation. Quand les causes initiales sont relayées par des mécanismes qui la maintiennent, même si les causes initiales, petit à petit, se calment et se résorbent. D'accord ? Eh bien, devine quoi ? C'est exactement à des effets de second tour qu'on est en train d'assister actuellement.
C'est-à-dire ?
Alors, on va commencer par le commencement. On va dire au départ, on va rappeler au départ que l'inflation a été provoquée par une combinaison d'événements ces deux dernières années. Premier événement, le redémarrage économique de l'année 2021 suite au confinement de 2020. Eh bien, ce redémarrage s'est fait un peu de façon chaotique. Il y a eu des pénuries nombreuses parce que la demande, elle était forte, mais l'offre avait du mal à suivre. Deuxième élément, ces pénuries qui sont apparues, si tu te souviens, la plus commentée, c'était la pénurie des semi-conducteurs. J'avais fait une chronique il y a longtemps là-dessus. Eh bien, ces pénuries, elles ont déséquilibré l'offre et la demande. Donc, plus de demande par rapport à l'offre, en conséquence, les prix montent. Et les prix de l'énergie ont explosé. Hein, les énergies fossiles notamment, tout ça, ça a explosé pour les raisons ci-dessus. Mais aussi les prix des produits alimentaires qui ont explosé, aussi pour des raisons climatiques, machin, etc. Mais bref, les deux pilier de l'inflation qui est apparue depuis 2 ans, c'est les prix d'énergie et c'est les prix des produits alimentaires. Et enfin, dernier point, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore renforcé tous ces mécanismes que je viens de mentionner. Ça, c'est les causes initiales de l'inflation que nous connaissons depuis 2 ans. En gros, une inflation d'environ 6% sur l'année 2022 en France, bien plus dans le reste de l'Union européenne, entre 8 et 9%, et la mise en place de mécanismes de soutien très coûteux par l'État. BFM parle d'un total de 100 milliards de coûts sur la période 2021-2023 au niveau des soutiens de l'État pour lutter contre les effets de perte de pouvoir d'achat de l'inflation.
En France ?
Ouais, juste 100. En France. Juste en France. C'est énorme, hein ?
Ouais, 100 milliards d'aides, quoi.
5 milliards, voilà, d'aides diverses pour adoucir le choc, la violence du choc de l'inflation en termes de perte de pouvoir d'achat.
Et à qui c'est qui a touché ces sous ?
Ouais, les particuliers, beaucoup, principalement les particuliers, hein, sous forme de chèques divers, etc. etc. Okay. Bon, début de l'année 2023, un certain optimisme prudent commençait à émerger, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, il y a la guerre en Ukraine, d'accord, mais on pensait espérer une stabilisation des prix de l'énergie et des produits alimentaires, qui sont les deux pôles d'inflation les plus puissants au départ. Ceci d'autant plus que nos bons économistes du courant dominant, les économistes mainstream et les politiques au pouvoir s'occupaient de la menace principale des effets de second tour. La menace principale des effets de second tour, c'est quoi ? That is the question. Eh bien, on va se mettre dans la peau de ces décideurs et de ces économistes et on va dire ben, la sagesse, mon cher Mathieu, tu vas être d'accord, ça consiste à tenir compte des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Et donc, pourquoi pas d'utiliser les méthodes du passé qui ont fait leurs preuves pour lutter contre ces effets de second tour. C'est le bon sens.
Ouais.
D'accord ? Sauf qu'en économie, comme dans tous les domaines, c'est vrai que c'est bien de tenir compte des événements passés, mais c'est aussi bien de savoir analyser en quoi les événements actuels peuvent être différents des événements passés. Alors, je vais m'expliquer, je vais être plus clair. Les événements passés, c'est dans les années 70-80. On a connu une inflation forte. Et cette inflation, elle était d'ailleurs combinée avec un ralentissement économique. On avait appelé ça la stagflation. Bon, très bien, ok. Et cette inflation, elle s'auto-entretenait. Elle connaissait des effets second tour. C'était quoi ces effets ? C'était ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'était l'idée qu'en fait, les augmentations de prix donnaient lieu à des revendications de la part des salariés pour augmenter leur salaire. Et comme à l'époque, ils avaient des pouvoirs de négociation assez forts, eh bien, ils obtenaient des augmentations de salaire. Mais ces augmentations de salaire alourdissaient les coûts de revient des entreprises qui, donc, augmentaient leurs prix pour répercuter ces augmentations de coûts de revient. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'inflation s'auto-entretenait.
Ouais.
C'était une lutte sans fin. Il est vrai, donc comme je l'ai dit, faut vraiment avoir ça en tête, que le rapport de force entreprise-salarié était bien plus en faveur des salariés. Les grèves étaient dures et donnaient lieu à une mise en difficulté des entreprises qui donc cédaient aux revendications des salariés. Okay. Sauf qu'en 1983, il y a eu un changement de politique économique radical qui va survenir. On va l'appeler à l'époque le virage de la rigueur. Il va être mené par Jacques Delors. Et il va consister, mesure principale pour ce qui est de la lutte contre l'inflation, dans la désindexation prix-salaire. C'est le terme qu'on va employer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va poser comme principe que désormais, les augmentations de salaire ne pourront plus suivre automatiquement l'inflation. Et c'est ce qui va se produire. Mmh. D'accord ? On va casser ce rattrapage systématique des salaires sur l'inflation. Alors évidemment, via une perte de pouvoir d'achat pour les salariés, c'est clair. Bon, ça tombe bien, en fait, entre guillemets, ça tombe bien. C'est-à-dire que le chômage de masse au début des années 80 est en train de s'installer et les premières vagues de délocalisation également. Bref, le rapport de force que j'évoquais, il commence à être de plus en plus en faveur des entreprises et de moins en moins en faveur des salariés. Et ça va aider à imposer aux salariés que non, désormais, on n'indexe plus les salaires sur l'inflation. Ça a marché, hein. L'inflation est passée en 1983 de 9,3% à, trois ans après, 86, 2,7%. Donc un résultat très, très, très positif. C'est donc ces mécanismes-là de boucle prix-salaire que nos économistes aujourd'hui ont commencé à mettre en avant en disant « il ne faut pas qu'il y ait des effets secondaires, il ne faut pas qu'il y ait une boucle prix-salaire, il ne faut donc pas trop que les salaires augmentent ». Sauf que, là on parle d'aujourd'hui.
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y a pas de boucle prix-salaire à l'horizon. Il n'y en a pas, tout simplement parce que la situation actuelle n'a rien à voir avec celle des années 80. Le rapport de force reste complètement en faveur des entreprises et pas du tout en faveur des salariés.
Ouais.
Donc les salariés n'ont pas les moyens d'imposer des augmentations de salaire. Alors tout va bien peut-être.
Je ne suis pas sûr.
Non. Non, puisque l'inflation demeure. Donc il y a bien des effets de second tour, mais c'est autre chose.
Ouais.
Et cette autre chose, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est plus une boucle prix-salaire, c'est une boucle prix profit.
C'est-à-dire,
en France, les grands groupes du CAC 40 ont battu des records de profits en 2022.
Ah oui, ils s'en sont mis plein les fouilles.
Exactement. Total Energy a un bénéfice net de 19,5 milliards d'euros. Mais en fait, il y a un système de provision, c'est un système comptable de 16 milliards d'euros qui cache en fait un profit réel, un bénéfice net réel de 35 milliards d'euros. C'est monstrueux. Stellantis, 17 milliards d'euros de résultats nets. LVMH, 14 milliards d'euros de résultats nets. BNP Paribas, 10 milliards d'euros de résultats nets. Sanofi, 6,7 milliards d'euros de résultats nets. Mmh. Du côté du secteur de l'agroalimentaire, les profits ont été multipliés par deux entre fin 2021 et fin 2022. Les taux de marge bénéficiaire, sont passés de 30 à 44% dans l'agroalimentaire entre fin 2021 et fin 2022. Bref, dans tous les cas, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout dû à des augmentations en volume des ventes. Non, non, pas du tout. C'est des augmentations des prix et des marges bénéficiaires qui ont permis ces résultats extraordinaires. Pour parler clairement, les grandes entreprises n'ont pas hésité à monter leurs prix pour reconstituer les marges bénéficiaires qui s'étaient dégradées lors de la période du Covid 2020-2021. Et c'est ça le moteur des effets de second tour. C'est ça, ce sont ces profits énormes générés par ces augmentations de prix et de marge bénéficiaire qui créent cet effet de second tour et qui enclenchent ce cercle vicieux de l'inflation. Parce que côté salaire, on n'y est pas. Hein. On est dans des baisses de salaire réel. Salaire réel, c'est salaire moins inflation. On est à moins 3% en France en 2022 et en Allemagne, pareil, moins 3%.
La population s'appauvrit.
Ouais, elle perd du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de boucle prix salaire. Il y a une boucle prix profit. Comment peut-on expliquer ce comportement des grandes entreprises ? Tout simplement parce qu'elles sont en situation, ce qu'on appelle de domination de marché. Elles dominent fortement leur marché, donc elles ne craignent pas la concurrence.
Ils font ce qu'ils veulent.
Enfin, elles ont la puissance pour imposer leurs prix, d'accord, aussi bien à leurs clients qu'à leurs fournisseurs. Alors ça peut paraître étonnant, parce qu'en fait l'Union européenne nous bassine depuis 30 ans avec l'idéologie de la concurrence, et on se retrouve avec des entreprises en domination de marché. C'est étonnant, ça peut paraître paradoxal. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas si paradoxal que ça, parce qu'en fait, les 40 dernières années de mondialisation néolibérale, le fameux régime néolibéral, ça a été des années de croissance externe forte, c'est-à-dire d'augmentation de la taille des grandes entreprises par rachat, rachat permanent, et de concentration d'entreprises qui fusionnent ensemble pour former des ensembles de plus en plus puissants. Bref, ces acteurs sont devenus des acteurs très dominants chacun sur leur secteur d'activité. C'est bel et bien les multinationales et aussi les marchés financiers qui sont les acteurs les plus puissants du système économique mondial. Donc, ils peuvent se permettre d'imposer des augmentations de prix. L'inflation, c'est pour eux une nouvelle occasion d'augmenter leurs profits. Les salariés et les consommateurs sont donc les dindons de la farce, perte de pouvoir d'achat et des deux côtés. Et les recettes habituelles de la Banque Centrale Européenne, qui consistent à augmenter les taux directeurs pour augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ne peuvent pas faire grand-chose face à ça.
Ouais.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.